Ambiance Africa.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Allons-y avec notre première invitée de la matinée, déjà installée sur le plateau d'Africa Radio. J'accueille avec beaucoup de plaisir Saïda Barkat Daoud. Elle est sociologue et spécialiste de la chirurgie des mutilations sexuelles. Elle vient nous présenter une plateforme donc, ça s'appelle Badon. C'est une innovation technologique donc, du mouvement sur les droits sexuels et la santé des femmes excisées. Badon, c'est le fruit de 6 ans de recherche. Vous allez nous en raconter l'histoire et nous parler surtout du lancement de la plateforme qui aura lieu à l'occasion de la Journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines qui aura lieu le samedi 6 février prochain. Alors merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Africa Radio. Vous avez voulu, à travers cette plateforme, proposer une nouvelle manière de parler de l'excision, une nouvelle manière d'accompagner les femmes excisées sans stigmatisation notamment. Bonjour, merci de nous rejoindre, vous allez bien ?
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Badon, cet outil ? Qu'avez-vous voulu nous proposer ? Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette plateforme.
Alors, Badon, c'est un site web et ça sera une application mobile d'information sur la santé et les droits sexuels des jeunes femmes excisées. C'est un dispositif qui est dédié aux jeunes femmes excisées et nous avons voulu créer des outils en recourant à la 3D. Donc c'est on propose une série de modélisations 3D d'animation sur l'anatomie du sexe féminin avec un focus sur le clitoris, les techniques d'excision et d'infibulation et la chirurgie réparatrice du clitoris. Alors, l'idée c'était de leur proposer une nouvelle manière d'expliquer l'excision sans les stigmatiser,
ouais,
en ayant une représentation du corps qui soit dans la dignité. Voilà.
C'est-à-dire que les propositions faites aujourd'hui contre ces pratiques sont d'un autre temps, selon vous ?
Disons que le discours et les représentations du plaidoyer en Europe, en règle générale, ouais, est problématique. On a tous en tête ces images un peu violentes, un peu sanguinolentes, qui sont très déshumanisantes dans la manière dont le corps des femmes africaines ou afrodescendantes est montré. Et il faut savoir que ce discours de plaidoyer a une incidence sur les jeunes femmes.
Ouais.
Ça les dissuade de s'impliquer, de se saisir politiquement de cette question, donc de lutter contre l'excision, et ça a aussi une incidence sur la manière dont elles se représentent leur corps.
Ouais.
Voilà. Si voilà.
Alors vous dites qu'au cours d'une enquête de terrain, vous avez été témoin de désarroi de femmes concernées face à l'absence d'informations scientifiques sur les effets de la lame sur leur corps et leur sexualité. Et alors quels sont ces constats ? Alors qu'est-ce que ces femmes vous ont dit et qu'est-ce qui vous a à ce point bouleversé en fait pour vous emmener à mettre en place Badon ?
Moi, j'ai été très très sensible à la puissance et à la détermination des jeunes femmes que j'ai eu la chance de pouvoir suivre dans les parcours de prise en charge hospitalière.
Oui.
Ce sont des jeunes femmes déterminées à soigner les séquelles, entre autres sexuelles et autres, de l'excision. Et j'ai perçu le fait qu'elles avaient un problème à pouvoir visualiser exactement ce que la lame a fait. Alors, dans les hôpitaux en France, les gynécologues prennent le temps de leur expliquer, mais c'est à partir d'outils comme le miroir ou les schémas, les planches d'anatomie, et c'est de la 2D. Ça, ouais, ça leur permet pas d'avoir une intelligence exacte de ce qui reste de la conformation de leur vulve. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, on pourrait à la fois changer la manière dont on représente le corps des femmes africaines, qui est réduit à un sexe en kit, hein, c'est les outils de prévention qui sont utilisés aujourd'hui, et en même temps donner une possibilité aux jeunes femmes, grâce à la 3D, de comprendre exactement ce que la lame a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Parce qu'il reste toujours quelque chose après une excision. Et ça leur permettra donc, si vous voulez, c'est de l'empowerment par le savoir, en fait.
Hein, oui.
De pouvoir comprendre tranquillement et entre pairs après de pouvoir partager. Et comme c'est digital et que c'est de la science en kit, ça peut circuler. Voilà. C'est ça qui m'a motivée à sortir un peu de ma zone de confort.
Oui.
Et à m'engager un peu, à m'engager avec mon équipe à renouveler le récit et les outils du plaidoyer.
Alors justement, des modélisations d'animation en 3D, j'en ai vu un petit extrait tout à l'heure pour un petit peu comprendre le phénomène. Donc les techniques d'altération du sexe des femmes africaines, le parcours de soins dans les différents protocoles médicaux, la chirurgie de transposition du clitoris, l'anatomie du sexe féminin axée sur le clitoris, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on peut reconstruire le clitoris après une excision. Et c'est important de faire, de se baser en fait sur ça et de dire aux femmes, il y a des solutions.
Oui, tout à fait. Après, la chirurgie réparatrice n'est absolument pas la seule thérapeutique, il faut le savoir. On peut réparer, soigner, donc je préfère ce mot qui est beaucoup plus exact, soigner les séquelles sexuelles et autres de l'excision, dans la majorité des cas, sans recourir à la chirurgie. C'est très important. Une bonne sexo, une bonne psychothérapie si nécessaire, de l'ostéopathie. Donc, en fait, soigner le trauma de l'agression sur cette partie tellement vitale et sensible du corps des femmes, c'est suffisant, c'est avéré. Mais ce qui était important, c'est qu'elles puissent prendre connaissance, grâce à la 3D, d'une conformation, on va dire, d'un sexe féminin sur un corps noir, représenté en dignité, qu'il ne soit pas entravé par la violence. Et puis, passer par voir les trois types d'excisions, ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas, hein, des excisions type 1, type 2, infibulation, puis après finir par la chirurgie pour leur montrer exactement aussi ce que ce geste fait et ne fait pas.
Ouais. Hein.
Il n'y a pas de reconstruction ad integram, mais il y a quelque chose qu'on peut réassembler à partir de l'existant. Et comme la 3D permet de mettre en perspective les volumes, les formes, et de bien comprendre l'articulation entre les différents organes sexuels et reproductifs, c'est assez fantastique, en fait, l'intelligence que ça vous donne.
Alors, vous proposez aussi un annuaire des centres de santé qui propose des soins aux femmes concernées en France, aux États-Unis, en Afrique également.
Oui, absolument. Dans le cadre de ma thèse, j'avais construit toute une base de données. Et comme je vous l'ai dit au cours de mon enquête, j'ai rencontré des jeunes femmes absolument puissantes, déterminées à se soigner et qui étaient en manque de cette information. Où trouver l'information? Donc là, c'est une base de données, un annuaire des centres de santé, 80 centres de santé en France, dans le privé comme dans le public, mais aussi en Europe et en Afrique. Parce qu'il faut savoir que, pour l'avoir étudié, cette technique, elle a circulé dès 2005 en Afrique, au Burkina Faso, par exemple, qui, à partir du moment où elle a circulé au Burkina Faso, des tas de médecins ont été formés par leurs pairs africains avant que d'autres ne s'y mettent plus tard, c'est-à-dire au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est allé très très vite. Hein. On est sur de la circulation d'innovation à l'heure actuelle, et non plus du transfert de technologie. On est vraiment sur quelque chose qui a été presque viral, parce que un médecin notamment franco-gabonais, franco-congolais pardon, le docteur Matsu, a été le premier à vouloir faire circuler et partager cette technique avec ses pairs au Burkina Faso, et ça a circulé. Donc aujourd'hui, ça existe dans toute cette partie de l'Afrique. Je pense qu'au Kenya, on la pratique aussi. J'espère un jour bientôt dans mon pays, hein, Djibouti. Je pense que les choses sont en train de circuler. Et notre objectif aussi à Baden, c'est de mener ce plaidoyer pour l'accès aux soins de toutes les femmes concernées. En Afrique, elles sont 90,5 millions. 500 000 en Europe, d'accord ? Tout le monde en Europe n'a pas accès à un soin de qualité, mais l'innovation a circulé dans les pratiques de la gynécologie et institutionnalisée, et puis même dans de la cosmétique génitale. Par contre, en Afrique, nous avons un vrai plaidoyer à mener pour que les jeunes femmes et moins jeunes d'Afrique de l'Ouest et de l'Est aient accès à des soins de qualité, aient accès à des soins. Et ça, c'est un plaidoyer que nous voulons mener avec elles pour interpeller les décideurs politiques.
Hein, c'est vrai que souvent, dans ces parties du monde, dans cette partie du monde, l'aspect psychologique n'est pas pris en compte.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que il n'y a pas d'accompagnement psychologique. On prend juste en compte le côté médical, mais pas les conséquences après sur la santé mentale, sur le couple, sur...
Absolument. Absolument. Mais c'est l'actualité. C'est cette actualité-là qu'on voudrait, sur laquelle on voudrait ouvrir une conversation publique, et que cette question-là de l'accès à des soins globaux, parce qu'en Afrique, je pense que depuis 40 ans déjà qu'il y a des soins sur les séquelles urogénitales, les désinfibulations. Donc voilà, c'est le fruit d'un mouvement. Je voudrais d'ailleurs rappeler aujourd'hui que des femmes médecins africaine, je pense d'ailleurs à Kosotoma, dès 87, a fait un plaidoyer pour l'accès aux femmes, que les victimes des violences, enfin de cette violence-là, soient soignées autant que on s'engage. Ça n'a pas été suivi de conséquences. Le docteur Nahid Toumbia a fait aussi en 93 un plaidoyer global pour que dans cette prise en charge publique internationale de la lutte contre l'excision, il y ait aussi tout un volet. Pour soigner les femmes. Donc, nous sommes dans cette continuité-là. Et voilà.
Et la plateforme sera lancée le 6 février prochain. Alors, parlez-nous un petit peu de la manière dont on va être articulé l'événement. Comment ça va se passer ?
Alors, c'est un événement en ligne, international, avec qui va rassembler des activistes, des leaders de d'ONG et des chercheuses aussi. Donc, c'est vraiment, on a voulu quelque chose d'assez rassembleur et qui sera ouvert en grande partie à la participation directe des jeunes femmes concernées. Ouais. C'est vraiment tout ce que nous faisons, donc, est trilingue. La plateforme est trilingue et la conférence digitale sera aussi en anglais et en français. Et là, nous avons des invités qui viendront de Nairobi, de Somalie, de Gambie. Nous attendons des réponses du Mali et du Sénégal, mais aussi des autres pays européens, quoi. Et voilà. Donc, c'est pour ouvrir cette conversation.
Ouvrir la conversation et parler aussi de financement, puisque l'événement sera l'occasion d'atteindre l'objectif des 30 000 euros de financement participatif pour que cette plateforme puisse voir le jour. C'est important aussi de le rappeler.
Absolument, nous avons besoin de soutien des femmes concernées, nous avons besoin du soutien des Africains, nous avons besoin, parce qu'il y a une classe moyenne importante en Afrique, donc pour que ces initiatives-là qui nous permettent de nous tous d'avancer, restent peut-être indépendantes, restent innovante, reste libre. Donc voilà, moi je compte beaucoup sur les Africains et les Afro-descendants pour nous aider à financer cette plateforme qui est pour eux.
Ça veut dire que quoi qu'il en soit, à partir du 6 février prochain, on pourra, toutes les femmes concernées dans le monde, avoir accès à la plateforme ?
La plateforme sera en accès libre. Certains de nos outils, dont la cartographie, seront en accès libre pour les animations 3D que je vous ai montrées et qui sont exceptionnelles. C'est vraiment une première du genre. Nous devons atteindre cet objectif de crowdfunding. Nous avons besoin de financement. Voilà.
Alors, vous vivez à Paris, vous venez de Djibouti, donc vous êtes sociologue, spécialiste du dispositif et de la chirurgie des mutilations sexuelles en France et en Afrique, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. En 2019, vous soutenez une thèse sur le sujet au sein de l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Alors, pourquoi ce sujet ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette pratique, dans ces pratiques, l'excision ?
Alors, disons que je me suis intéressée à un moment donné où je cherchais un nouveau sujet de recherche pour des domaines qui avaient changé. Je m'intéressais beaucoup aux questions de genre, de sexualité, mais aussi de voilà. Et il se trouve que je suis une personne concernée, je suis une femme concernée. Je viens d'une région qui est concernée par cette problématique-là. Et j'ai été sensible à une actualité médiatique autour de la réparation de l'excision, de ce qu'on appelle la réparation de l'excision, donc de la possibilité enfin qu'il y ait des soins, n'est-ce pas ? Moi, c'était un sujet dont je me suis saisie pour ces différentes raisons. Et puis, Ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est que je me suis intéressée au débat médical hein, sur les protocoles sur les protocoles de prise en charge. Ouais. Comment on allait offrir un soin aux femmes, c'était mon entrée. Donc mon enquête a été beaucoup empirique dans les hôpitaux, à suivre des consultations, à observer des blocs opératoires, et puis à faire du suivi de patientes. Mais en même temps, je me suis intéressée à une question qui est qu'est-ce qui a fait qu'on s'est intéressé ici en France, mais aussi en Europe, à cette question. La prise d'intérêt intellectuel, scientifique, politique pour cette question-là, parce qu'il y avait tout un... Le fait qu'il y ait une innovation chirurgicale et qu'on puisse offrir des soins aux femmes excisées, ça a été aussi le moment d'une réactivation de tropes sur l'Afrique, la barbarie des cultures, enfin, tout ce qu'on sait qui est absolument... problématique et gênant. Ouais. Et je me suis dit, mais d'où ça vient ? Donc, du coup, ça a fait un très bel objet de recherche pour moi. Ça m'a passionnée.
Alors, d'ailleurs, vous rédigez actuellement un ouvrage qui paraîtra bientôt, Le devenir nègre du sexe altéré des femmes africaines à l'ère digitale globale. Pourquoi ce sujet ?
Écoutez, c'est les résultats de ma recherche de thèse que je voudrais restituer, en fait, au public spécialisé et puis un peu au grand public aussi, parce qu'il y a des j'ai fait une enquête généalogique sur la catégorie des mutilations sexuelles dans l'espace social et moral français. C'est une enquête qui cherche à comprendre comment le discours de la médecine, mais de l'anthropologie des races et du féminisme aussi tardif au 20e siècle s'est saisi de cette question là il y a beaucoup à dire, tout en partant un peu de l'archive du présent, où aujourd'hui, effectivement, les représentations et les discours, à la fois des médias, mais aussi du plaidoyer militant, est problématique. Et il faut que ça change. Voilà.
Ah, pourquoi le nom Badon ? Qu'est-ce que ça veut dire, Badon ?
Ah, Badon, c'est un mot afar qui veut dire ouais. Une cloche. C'est ouais. La cloche que la Kalwale, c'est la figure de la Piti, la prêtresse qui profère des divinations, non ? Quand elle se mettait à proférer des divinations, elle faisait sonner la cloche. Donc,
d'accord.
C'est une invitation que je fais aux jeunes femmes excisées et aux personnes concernées par cette question à se reconnecter avec leur puissance intérieure et se soigner et se réengager.
C'était quoi l'objectif en venant ce matin sur l'antenne d'Africa Radio ?
L'objectif, c'était de parler de cette initiative, de présenter Badon. Et de vous inviter à nous à aller sur notre site badon.com à découvrir ce projet, à le soutenir et à construire avec nous ce mouvement pour la santé et les droits des femmes, les droits sexuels des femmes excisées partout dans le monde. C'est-à-dire à partir de l'Europe et avec les Africaines et les Africains.
Bravo en tout cas pour cette initiative, Saïda Barkat Daoud. Je rappelle que le lancement aura lieu le 6 février prochain à l'occasion de la Journée internationale tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Je vais vous laisser conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer ?
Je voudrais dire que Badon a le swag, l'intelligence et la puissance des jeunes femmes excisées de France, afro-péennes et africaines, et que ce mouvement et cette plateforme leur est dédiée. Donc qu'elles nous rejoignent, nous les attendons.
Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci d'être venu nous présenter Badon. C'est une affaire à suivre. Donc, merci. On vous souhaite un excellent lancement le 6 février prochain et à très bientôt sur l'antenne d'Africa Radio.